Actu SF, les podcasts.
Bonjour à tous et merci d'être venus. Je crois que nous allons pouvoir commencer et je suis très heureux de recevoir ici Victor Dixen pour son nouveau roman, Cogito. Alors nous avons eu, pour les latinistes, une discussion pour savoir est-ce qu'on dit cogito ou cogito. Il semblerait qu'aujourd'hui, les deux prononciations soient acceptées, mais pour le principe, on va prendre cogito. Voilà.
Pour se mettre d'accord.
On s'est mis d'accord. Très bien, donc, nouveau roman, après Phobos, qui a fort bien marché, puisque j'ai cru comprendre que maintenant il était traduit en anglais, etc. Et donc, vous restez dans le même univers, on va en reparler après, mais encore un peu plus avant dans le temps.
Oui.
Hein. Et donc, Cogito, alors peut-être on va commencer par présenter à tout le monde un petit peu l'environnement général du roman pour que vous puissiez mieux apprécier ensuite la discussion qu'on va avoir. Disons que d'abord il y a une réflexion sur l'évolution de la société et vous la projetez dans l'avenir.
Oui, disons que quand je me mets à écrire un roman, et surtout en science-fiction, ce qui m'intéresse, ce sont des questions. Je n'ai pas vraiment de réponse, mais il y a des éléments dans la société que j'observe autour de moi qui m'interpellent. Et dès lors, l'écriture, c'est un moyen de creuser, d'essayer de comprendre où ces éléments, ces innovations peuvent nous amener. Dans Phobos, c'était vraiment le redémarrage de la conquête spatiale. Hein. Quand j'ai commencé à l'écrire, on parlait de plus en plus de la planète Mars. Et la NASA, des entreprises privées promettaient qu'on allait y retourner dans les décennies à venir. Et également la société du spectacle, cette société d'écran qu'on s'est construit autour de nous, qui quelque part ressemble aussi un peu à une prison. Donc c'est ces deux éléments qui m'ont inspiré dans Phobos et que j'ai projeté comme ça dans de l'anticipation, donc un futur assez proche qui pourrait arriver demain. Dans Cogito, il y a également deux éléments de notre monde aujourd'hui qui m'ont interpellé. D'une part, c'est la révolution de l'intelligence artificielle. On en parle de plus en plus. C'est la manière dont l'intelligence artificielle va complètement révolutionner notre société, à la fois l'économie, la politique, l'écologie, l'industrie, l'agriculture, rien ne va y échapper. Et je me suis dit, c'est le moment d'essayer d'imaginer ce que ça pourrait donner dans quelques dizaines d'années. Donc on se projette un peu plus loin que Phobos, effectivement. Ouais. Je dirais, alors je mets jamais de date dans mes romans, pour pas les dater, justement. Je dirais que Phobos, on est dans les années 2030, sans doute. Avec Cogito, on va plutôt être en 2050-2060. Donc le premier élément, c'était vraiment l'intelligence artificielle. Et très vite, ça m'a amené à un deuxième élément, qui est le cerveau humain. Parce qu'on fait énormément de découvertes de nos jours également sur la manière dont le cerveau humain fonctionne. Et plus on découvre des choses, plus on se rend compte qu'il y a énormément de choses, d'éléments à découvrir encore. Et ces deux dimensions, l'intelligence artificielle et le cerveau humain, l'intelligence réelle pour ainsi dire, sont intimement liées.
Voilà. Et il y a des conséquences. Alors on va y revenir beaucoup plus dans le détail parce que c'est vrai que c'est le cœur de l'intrigue du roman quelque part. Mais disons qu'il y a déjà, par exemple, vous estimez que les États-nations vont disparaître au profit du tout privatisé. L'essor des GAFA.
Ah oui, c'est un élément déjà dans Phobos que j'avais commencé à esquisser. Hein. Dans Phobos, la NASA est privatisée. Le gouvernement américain vend tous ses actifs, les autoroutes, les écoles, les musées et la NASA. Je suis allé encore un pas plus loin dans Cogito, où effectivement les entreprises sont devenues des méga-corporations qui ont également pris en charge l'éducation des citoyens. Donc l'éducation nationale s'arrête au secondaire, on s'arrête à la fin du lycée, et ensuite ce sont les corporations qui vont faire leur marché parmi les lycéens et décider ceux qui iront sur des campus de corporations pour apprendre un métier. Et les autres, malheureusement, seront laissés sur le carreau, car c'est un peu le revers de la médaille de l'intelligence artificielle et de l'automatisation, c'est qu'énormément d'emplois sont appelés à disparaître. Alors certains économistes disent que d'autres emplois vont être créés, c'est ce qu'on appelle la destruction créative, mais de plus en plus on se rend compte que le nombre d'emplois qui vont être créés par l'intelligence artificielle sera sans doute bien inférieur à ceux qui seront détruits. Donc ça, c'est un énorme challenge pour les politiques et pour les économistes dans les années à venir. On en parle de plus en plus et c'est un sujet, je pense, que les citoyens doivent vraiment s'approprier parce que ça va être un des grands défis de ce siècle. Pour moi, il y a deux grands défis du 21e siècle, c'est l'écologie, la planète et l'automatisation, l'intelligence artificielle.
Alors, l'écologie, effectivement, vous l'abordez de temps en temps en passant. Il y a eu manifestement le réchauffement climatique. On apprend que la Bretagne est devenue le grenier à blé de la France. Bon, ça surprend toujours un petit peu.
Épinal, peut-être aussi. Hein, et,
Épinal, oui, peut-être, va devenir une zone très chaude. Les palmiers le long de la Moselle, peut-être, après tout. Qui sait ? Et effectivement, vous parlez aussi de ces conséquences de la mécanisation et des intelligences artificielles qui vont donc contrôler tous les robots. Et donc, ça entraîne effectivement le chômage. Et vous faites une description qui est finalement assez effrayante de tous ces gens qui perdent les uns après les autres leurs emplois sans aucune chance. Alors, surtout si on a échoué au bac. Alors, on peut peut-être en parler une minute, parce que j'ai adoré le bac Nouvelle Manière. Enfin, j'ai adoré, non. J'ai été effrayé par le bac Nouvelle Manière.
Alors, c'est vrai qu'on a gardé l'acronyme, les initiales du bac, mais ça ne signifie plus baccalauréat, ça signifie brevet d'accès aux corporations. Donc, ça dit bien cette privatisation de l'enseignement et cette... Il y a une négociation, c'est expliqué au début du roman, un bras de fer comme ça entre le gouvernement et les corporations tous les ans pour savoir quel sera le pourcentage en fait de réussite au bac de la population d'une génération d'étudiants qui vont passer. Alors les corporations veulent en prendre toujours moins parce qu'il y a des robots qui prennent les jobs et le gouvernement pousse pour garder un taux assez important. Donc c'est l'objet à chaque fois d'une négociation. Et mon héroïne, on en viendra par la suite, hein, peut-être plus en détail, Roxane, ses parents étaient comptables et ils ont tous les deux été remplacés par des robots. Ils ont été déclassés et depuis, elle est vraiment en lutte contre la société. Elle refuse complètement ce monde du futur que les corporations préparent à la jeune génération. Et du coup, elle est en décrochage scolaire complet. Elle est même tombée dans la délinquance. Mmh. Et elle va avoir l'opportunité à un moment de décrocher une bourse pour un stage où on lui promet par une certaine technologie qu'elle pourra avoir son bac.
On va revenir là-dessus après, mais effectivement, dans cette notion de déclassement social, et c'est vrai que ça, c'est des choses que l'on sent déjà aujourd'hui, vous poussez le paradoxe à son maximum, c'est-à-dire qu'il y a un moment où il revient moins cher d'avoir des humains pour faire certaines tâches non qualifiées sous les ordres d'intelligence artificielle.
Oui, c'est un peu en fait le paradoxe. C'est-à-dire que l'automatisation, c'est pas nouveau. Hein. C'est depuis le milieu du siècle, on a commencé à automatiser certains postes dans les usines, la deuxième révolution industrielle, puis la troisième. Mais ce qui est vraiment spécifique de la révolution de l'intelligence artificielle, qui a commencé et qui va ne faire que s'accentuer au cours des années à venir, c'est que tous les emplois sont désormais menacés. C'est pas uniquement les tâches répétitives en usine, c'est aussi les tâches intellectuelles. Alors d'abord, les tâches intellectuelles dites répétitives, donc tout ce qui va être comptable, également une grande partie des métiers d'avocat vont être remplacés. En médecine également, dès aujourd'hui, la radiologie, par exemple, les intelligences artificielles sont beaucoup plus efficaces que des humains pour repérer, par exemple, une tumeur sur des radios. Donc les radiologues, qui sont pourtant des emplois très qualifiés, vont rapidement disparaître. Aucun champ ne sera épargné, donc c'est ça qui est assez terrifiant dans cette
révolution. Même les auteurs vont disparaître.
Même les auteurs vont disparaître, c'est effectivement dans le roman. Il y a déjà certains livres qui sont écrits par des intelligences artificielles, ça reste très confidentiel, mais ça va se développer de plus en plus. Il n'y a aucune raison en fait que l'intelligence artificielle n'envahisse pas comme ça tous les champs de l'activité humaine. Et c'est vrai, pour revenir sur ce que vous disiez, on a donc ce paradoxe où les robots sous la houlette des intelligences artificielles vont faire plein de tâches, et finalement les humains vont être ceux qui passent derrière pour, par exemple... fixer les balayer les rues, faire toutes les tâches non standardisées que les robots ne peuvent pas encore effectuer.
Oui, ou celles pour lesquelles un robot coûterait plus cher qu'un humain, finalement. Exactement. Puisqu'on paye les humains avec des bouts de ficelle, avec des cacahuètes. Et on les entasse ensuite. Alors ça aussi, ça fait partie de cet environnement qui est finalement assez effrayant. C'est la description que vous faites de l'urbanisation des villes, avec les très riches qui, bien sûr, vivent encore dans un environnement aseptisé, climatisé, etc. Et le reste de la population, tous ceux qui n'ont pas d'argent, pas de travail, qui sont entre guillemets des chômeurs professionnels, finalement, et sans espoir véritablement, pour le moment, mais ça fait partie aussi du roman, sans espoir pour l'instant de s'en sortir, qui vivent dans des sortes de couches urbaines en hauteur, des sortes d'entassements invraisemblables.
Alors oui, c'est vrai que j'ai essayé comme ça de combiner les conséquences du réchauffement climatique et celles de l'automatisation. Le réchauffement climatique, on le sait, va rendre de nombreuses zones du globe inhabitables dans les décennies à venir. Et on va avoir des grandes vagues de migration climatique que j'évoquais déjà dans Phobos, mais qui sont plus prononcées dans Cogito. Et les zones tempérées encore vivables vont accueillir de plus en plus de gens. Effectivement, il va falloir pouvoir les loger. Et j'ai imaginé ce concept d'alturbation. On a déjà ce qu'on appelle les conurbations aujourd'hui. C'est quand des centres urbains, finalement, sont tellement rapprochés qu'ils se connectent les uns aux autres et créent des villes gigantesques. Un des exemples, c'est Los Angeles, par exemple, aux États-Unis. Je me suis dit, on va aller encore plus loin. Et au lieu de rester sur une seule couche horizontale, on va les entasser en verticale. Donc, ça donne les alturbations. Et effectivement, mon héroïne Roxane vit dans une alturbation, une des plus grandes autour de Paris, qui s'appelle l'alturbation du Bois Joli. Et les couches inférieures qui ne reçoivent finalement jamais la lumière du soleil sont réservées aux déclassés sociaux, aux gens qui ont perdu leur emploi, alors que les plus riches, ceux qui détiennent les robots finalement, vont vivre dans les couches supérieures des alturbations où les conditions de vie sont bien sûr meilleures.
Voilà, alors maintenant qu'on a dressé un petit peu ce panorama pour permettre à nos amis ici de comprendre, on va se pencher sur ce qui est le cœur du roman, d'où le titre Cogito, qui pose tout le problème de l'intelligence et de la connaissance. Et je crois pas me tromper en disant que votre roman est sans doute le premier roman qui utilise donc les nanotechnologies, mais non pas pour améliorer les performances physiques, c'est ce qu'on voit habituellement dans les romans de science-fiction, mais dans votre cas, ça va être pour améliorer les performances intellectuelles.
Oui, alors je reviens un peu sur le parcours de mon héroïne Roxane, que j'ai esquissé tout à l'heure. Elle est en décrochage scolaire, on est à 3 mois du bac, donc le brevet d'accès aux corporations. Elle a vraiment fait une croix dessus. Et en plus, elle est entraînée par sa bande de copines qui sont des délinquantes. Et elle se dit, bon, moi, ma voie est toute tracée, je vais terminer en prison, à un moment donné, ça va s'arrêter. Et elle va recevoir une lettre lui disant qu'elle est sélectionnée pour une bourse pour un stage Sciences Infuses. C'est un peu le Deus Ex Machina, elle attendait absolument pas ça. Elle se rend à l'entretien pour ce stage et on lui explique que la science infuse, en fait, c'est une nouvelle technologie qui utilise l'intelligence artificielle pour améliorer l'intelligence humaine. Comment ça se passe ? C'est de la programmation neuronale, c'est-à-dire qu'on va lui injecter des neurobots, qui sont des tout petits robots minuscules, qui vont se loger tout autour de son encéphale. Et pendant une semaine, on va lui envoyer des connaissances, comme ça, on va activer les zones de son cerveau de manière à ce qu'elle ingurgite tout le programme du bac sans rien faire, en étant dans une île tropicale, à se la couler douce, avec d'autres stagiaires. Donc, sur le papier, ça paraît absolument fantastique, une occasion en or. Elle signe et elle s'envole pour les îles Fortunées, donc cet endroit où on pratique la programmation neuronale. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est une technologie encore très expérimentale qui n'a pas obtenu l'autorisation de mise sur le marché en France. Et c'est pour ça qu'on la pratique dans cette île tropicale qui est située dans les eaux internationales, hors de la juridiction des États. Est-ce que tout va se passer comme prévu ? Peut-être pas.
Alors, les îles Fortunées, déjà, ça fait référence à la mythologie la plus ancienne. Et alors, ben, on peut peut-être en dire un mot. C'est que nos saintes, l'énorme entreprise, la méga corporation qui a été fondée par un génie français d'origine, Cocorico, Damien Prinz, c'est un ensemble d'îles artificielles, justement, qui sont créées pour pouvoir échapper à toute législation.
Voilà, il y a deux objectifs en fait avec ces îles. La première, c'est que Damien Prinz, effectivement, qui est un peu le Mark Zuckerberg du futur, que j'ai inventé et qui est français, qui dirige l'entreprise NeoSynth, qui est le leader mondial de l'intelligence artificielle, voulait un endroit où tester les nouvelles technologies sans avoir à rendre des comptes aux États. Donc il a créé cet archipel d'îles artificielles qui peuvent se déplacer sur les 7 mers pour être à chaque fois dans des zones internationales qui ne relèvent pas du coup de la législation des États. L'autre avantage d'avoir des îles qui peuvent se déplacer, c'est qu'on fuit les conséquences du réchauffement climatique. Quand il y a un cyclone qui arrive, on va dans une autre partie de l'océan et ça permet d'avoir toujours une météo au beau fixe, comme aujourd'hui à Épinal.
Je suis en train de chercher, je ne sais pas si vous pourrez le voir, mais il y a, alors il faut ajouter quand même tout de suite qu'il y a de superbes illustrations et dessins, et il y a entre autres la carte des îles. Et, voilà. C'est pour ça que je cherchais dans celui-ci où la carte est peut-être un tout petit peu plus grande.
Alors, les îles, effectivement, il y en a 7. Et comme ce sont des îles artificielles, elles ont pu être façonnées entièrement sur mesure. Et Damien Prinz a décidé de de leur donner la forme de lettre qui est en fait l'initiale à chaque fois d'un pionnier de l'intelligence artificielle. Donc on a l'île Wiener. Wiener était vraiment un des pionniers de la cybernétique. L'île Turing, pour ceux à qui ça parle, hein, qui était également un mathématicien qui a été pionnier sur l'intelligence artificielle. L'île Lovelace, l'île Pascal, l'île Asimov, l'île Jobs et l'île Descartes, celle-ci, qui est en fait l'île sur laquelle les stagiaires vont passer cette semaine de rêve.
Voilà. Donc effectivement, c'est à partir de là que vous développez beaucoup, donc toute votre réflexion qui est le cœur du roman quelque part, sur l'évolution des intelligences artificielles, la mécanisation et la conception en fait de l'être humain lui-même, où il y a deux tendances qui s'opposent. Alors on peut peut-être en parler un petit peu, puisque Descartes, c'est une vision de l'humain, et qui est celle de Damien Prince, quelque part.
Oui, alors c'est vrai que l'occasion, enfin, quand j'ai commencé à, quand je me suis lancé dans ce roman, je voulais vraiment parler de l'intelligence artificielle, et comme toujours, il y a une phase de recherche qui est importante quand on fait de la science-fiction, et c'est comme ça que j'ai creusé un peu cette idée d'intelligence artificielle, d'être artificielle, et j'ai remonté à son origine, et qui est beaucoup plus ancienne que ce qu'on croit. Et on peut sans doute, dans la culture occidentale, la tracer jusqu'à Descartes, qui a théorisé pour la première fois le corps humain comme une machine, avec sa théorie de l'homme, de l'animal-machine. Il considérait que les animaux étaient en fait des machines. Et par la suite, un autre philosophe, un siècle plus tard, de la Mettrie, a publié un livre qui s'appelait « L'homme-machine ». Donc c'était vraiment cette idée mécanique de l'être humain. Et c'est vrai que Damien Prince, au XXIe siècle, donc le fondateur de NeuroSynth, lui, il considère que l'homme est une machine également, et c'est pour ça qu'il pense qu'on peut télécharger les connaissances dans l'esprit humain comme un logiciel dans un ordinateur, finalement. Et on a une vision opposée qui s'oppose justement à celle-ci, c'est la vision organique des choses. Il y aurait un élément impalpable dans la conscience humaine, dans l'être humain, qu'on ne pourrait pas réduire à la machine. Et ces deux visions vont s'opposer de manière de plus en plus forte au cours du roman. Alors, je ne veux pas déflorer le sujet, mais c'est vrai qu'il y a une partie de la population du coup, qui refuse complètement la société architectologique qu'on leur propose. Et ils ont, alors, on raconte dans le roman qu'il y a une guerre de sécession en France, plusieurs décennies avant que commence l'histoire. Et une partie de la population a obtenu la Lozère, l'indépendance de la Lozère, qui est devenue une zone sans technologie. Donc non seulement pas de robots, mais pas de voiture, aucune machine.
Et ils vivent, de médecine.
Pas de médecine, en tout cas une médecine très traditionnelle, pas de médecine moderne. Ils s'appellent eux-mêmes les affranchis, car ils considèrent qu'ils sont affranchis de la technologie, mais le reste de la population les appelle les arriérés, parce qu'ils vivent justement sans technologie. Et parmi mes stagiaires sur les îles Fortunées, il va y avoir un affranchi justement qui a décidé de quitter la zone franche, de quitter la Lozère, et il va nous donner un peu la perspective sur ce monde des affranchis.
Oui, il donne. D'ailleurs, il y a une très belle scène à un moment à l'aéroport lorsqu'ils vont embarquer pour partir, où il y a une dame qui les considère avec mépris. Ouais. Et là, il a de très belles réponses.
Je peux peut-être le lire si je le retrouve.
Je ne sais plus.
Alors oui, en fait, donc on est à l'aéroport de Miami, parce que les îles Fortunées, au moment où commence le roman, sont stationnées dans l'Atlantique, au large des Bahamas. Et donc mes héros, mes trois boursiers, hein, parce qu'il y a deux autres candidats qui ont été choisis comme boursiers en plus de Roxane, doivent atterrir d'abord à Miami, puis ensuite prendre un jet privé pour aller sur les îles Fortunées. Donc là, ils viennent d'atterrir à Miami, et elle a déjà fait la connaissance de Lorenzo, qui est un autre boursier. Ils n'ont pas encore rencontré le troisième, qui s'appelle Faune, comme on va le découvrir. Alors, notre nouveau compagnon hoche la tête. Donc, le nouveau compagnon, c'est Faune. Mais je sens qu'il hésite encore, comme si les derniers pas lui coûtaient davantage que les 7000 km qu'il a parcourus depuis Paris. « Regarde cette pancarte, Thérèse », grommelle soudain une voix derrière moi. « Un stage science infuse. c'est cette nouvelle technologie illégale dont il parle aux infos. Il y avait des stagiaires dans l'avion qui viennent se doper avant le bac. Sam Debecht. Je me retourne, m'apprêtant à répliquer vertement. Mais l'homme qui a parlé passe sous mon nez sans s'arrêter, au bras de sa compagne, la dame au chat chien. Alors, chat chien, c'est parce qu'il y a ce qu'on appelle des anibots, donc des robots animaux, et certains d'entre eux, en fait, sont des combinaisons d'animaux domestiques qu'on connaît, et notamment le chat chien, qui est vendu comme étant le meilleur des deux mondes dans les publicités. Voilà, une dame au chat chien. Donc, ils n'ont pas fait le lien entre les trois ados de la classe affaires et le stage NoSynth. Leur mépris est uniquement concentré sur la femme à la pancarte. Donc, ça, c'est la dame qui les accueille à l'aéroport pour le stage. Je prends soudain conscience qu'ils ne sont pas les seuls à la regarder de travers. La plupart des voyageurs, en sortant de l'avion, font la grimace. Des murmures accusateurs se propagent de lèvre en lèvre. Personne n'ose hausser la voix, mais je sens bien toute la désapprobation dirigée contre les stagiaires de NoSynth, contre celle que je serai bientôt. Je savais que la programmation neuronale était un sujet polémique, mais pour la première fois, je suis confronté à ce que ça signifie réellement. Des visages fermés, des sourcils froncés, des mots qui blessent. C'est aussi pour encaisser tout ça que j'ai signé, je commence à le comprendre. Sale petit tricheur, persifle la dame en caressant la tête du chat-chien qui émerge de son cabas. Ce qu'ils font est contre nature. Tout comme vous. La dame sursaute et se retourne vers Faune qui l'a interpellé. Je vous demande pardon ? Vous aussi, vous êtes contre nature, dit-il. Faune me semble complètement transformé à des années-lumière du garçon renfermé et hésitant qui m'est apparu quelques minutes plus tôt. Ce n'est plus qu'un bloc de détermination, fixant la femme en face de lui, droit dans les yeux. « Je ne vous permets pas, jeune homme, » siffle-t-elle en prenant un air pincé. « Vous croyez que c'est naturel, cette chose que vous promenez dans votre sac ?» rétorque Faune en désignant le chat-chien qui le regarde de ses yeux fixes. « Et votre montre, connectée à une IA médicale, qui vérifie vos marqueurs biologiques en permanence. Et l'androbot hôtesse qui vous a servi un repas préparé par un mécabot cuisinier. Et l'avion lui-même qui vous a amené jusqu'ici. » Le flux des voyageurs s'arrête. Désormais, c'est vers Faune et son interlocutrice que se tournent tous les regards. Les yeux du garçon étincellent. Ayez le courage de vos opinions. Si vous voulez vraiment rejeter tout ce qui est contre nature, comme vous dites, alors abandonnez tous vos gadgets et le confort qui va avec. Je ne sais pas. Je ne veux pas, balbutie la dame. Qui êtes-vous d'abord ? Faune Bruyère, répond le rouquin, en haussant la voix pour que tout le couloir puisse l'entendre. Il pivote sur ses talons afin que chacun puisse le voir. « Retenez mon nom, mesdames et messieurs. Rappelez-vous mon visage. Pas besoin de prendre des gants avec moi, de jeter des regards en coin ou de murmurer à voix basse dans mon dos. Qu'on se le dise. Moi, Faune Bruyère, j'ai tourné le dos à la nature. »
Voilà, et je crois que là, ça résume très bien tout le débat qu'il va y avoir pendant tout le livre, en fait, après, sur... Jusqu'à quel point peut-on utiliser des machines et rester humain ?
Oui, c'est vrai que, et notamment, alors Faune Bruyère, lui, c'est effectivement le personnage qui incarne ça de la manière la plus évidente, parce qu'il vient de cette société entièrement dédiée à la nature, des affranchis. Il a décidé, pour des raisons qu'on va découvrir par la suite, de quitter ce monde qu'il a toujours connu pour se confronter à la technologie, au monde technologique moderne, et il est encore très clivé, c'est-à-dire qu'il n'assume pas complètement ce choix, on le voit dans cette scène, et ça va être tout un cheminement pour lui de trouver sa voie. Mais c'est vrai que la notion même de télécharger des connaissances dans l'esprit humain, on va voir dans le roman qu'est-ce que ça signifie vraiment. Mm-hmm. C'est-à-dire quand on vous apprend à jouer de la guitare, par exemple, par téléchargement neuronal, qu'est-ce que ça donne une fois que vous avez une guitare entre les mains et que vous en jouez ? Alors on va voir les personnages le faire et on va voir que c'est très différent d'un artiste qui aurait vraiment passé des années à apprendre à jouer de la guitare et pour qui ça serait devenu une partie de son être, quelque chose de très organique. Ça va donner quelque chose de différent là.
Alors donc ça c'est l'un des aspects, c'est l'aspect des humains qui se machinisent, mécanisent quelque part, qui sont considérés comme des machines, donc on l'a dit. Mais il y a l'autre versant. Les machines qui deviendraient humaines, les intelligences artificielles, peuvent-elles s'humaniser, c'est-à-dire acquérir la conscience, ce qu'on appelle la singularité? Et ça, c'est l'un des enjeux aussi du roman, c'est la détermination de la singularité.
Ah oui, il y a deux, par rapport à votre question, il y a deux aspects en fait. Mais l'humanisation de la machine, c'est complètement le pendant de la mécanisation de l'être humain. Et ça, il y a deux niveaux sur ce thème-là. Le premier, c'est l'apparence. Et on le constate déjà aujourd'hui, on a des robots qui semblent de plus en plus humains physiquement. Hein, et c'est vraiment un challenge pour les gens qui créent les robots de les leur donner une apparence humaine pour qu'on se sente proche d'eux. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un robot qui s'appelle Sophia, de Hanson Robotics. Elle a 120 000 followers sur Instagram, donc elle est quand même très populaire. Elle a vraiment une apparence humaine. En 2017, l'Arabie Saoudite lui a donné la citoyenneté. C'est la première fois qu'une machine a une citoyenneté avec des droits humains comme un être humain. Et c'est vraiment un objectif des gens qui font les robots, de les rendre le plus humain possible en apparence. Ensuite, il y a le ghost in the shell, c'est-à-dire ce qu'il y a dans la machine, le programme. Et là, c'est une autre question. Est-ce qu'un programme pourra un jour devenir conscient de lui-même, penser par lui-même? Est-ce qu'un robot pourra dire « cogito ergo sum »,« je pense donc je suis », la fameuse phrase de Descartes qui nous définit comme humain. Et ça, c'est aussi un thème que j'ai voulu mettre au centre de ce roman. Alors, je ne veux pas déflorer le sujet.
Non, il ne faut pas.
Mais c'est vrai que les gens de la Silicon Valley utilisent souvent le terme de singularité pour parler de ce moment où la machine deviendra consciente d'elle-même. Alors, il y a plusieurs manières de définir la singularité. C'est un concept qui est presque mystique. On considère qu'à partir du moment où la machine deviendra consciente d'elle-même, il y aura une explosion technologique exponentielle et qu'elle deviendra intelligente et puis tout de suite après supra-intelligente, plus intelligente que les êtres humains. Il y aurait un effet d'emballement comme ça qui est décrit sous le terme de singularité et qui est vraiment un des horizons de Cogito. Donc on va se diriger vers cette idée de plus en plus aux côtés de mon héroïne Roxane.
Voilà, mais alors justement pour déterminer la singularité, vous rappelez des personnages dont un qui est absolument fascinant et qui est bien oublié, qui a été une pionnière de la robotique, qui est Ada Lovelace. Et ça, il faudra en parler parce que, justement, ce qui est passionnant aussi dans le roman, c'est qu'on apprend ou qu'on se ressouvient de choses qu'on a oubliées sur toute l'évolution de la mécanisation, parce qu'évidemment, vous partez de Descartes, mais vous rappelez que Vaucanson a été aussi un pionnier en matière de pré-robotisation avec ses automates, etc. Et il y a deux personnes qui ont beaucoup réfléchi ensuite au 19e et au 20e siècle sur ce qu'était l'intelligence et comment on allait pouvoir déterminer si quelque chose était véritablement intelligent au sens d'autonomie, d'intelligence autonome qui peut prendre ses propres décisions. C'est Ada Lovelace et Turing.
Voilà, Ada Lovelace, qui était effectivement une Anglaise du 19e siècle, la fille de Byron, et qui a fait un formidable travail de pionnière de l'informatique, un peu comme Pascal à son époque. Alors, elle a été un peu oubliée depuis, on la redécouvre de nos jours. Et c'est vrai qu'elle a formulé l'idée selon laquelle la définition vraiment de l'intelligence humaine, c'est la capacité de créer des idées nouvelles. Et que la machine analytique, c'est comme ça qu'elle parlait de robots à son époque, une machine analytique serait capable dans le futur d'effectuer énormément de tâches très complexes, peut-être mieux même qu'un être humain, mais qu'elle ne serait pas capable d'imagination. Donc c'était sa manière de définir l'intelligence et cette frontière infranchissable entre l'humain et la machine. On a un peu oublié ce test de Lovelace, hein, cette définition. Celle qui prévaut aujourd'hui, c'est plutôt le test de Turing. Je ne sais pas si vous connaissez ce test de Turing qui a été formulé au milieu du XXe siècle, donc par Alan Turing. Lui imaginait qu'on mettait un humain dans une pièce, et de l'autre côté, sans qu'il puisse voir, deux interlocuteurs, l'un étant un être humain comme lui, et l'autre étant une machine. Dès lors, une conversation s'engage, et si à la fin de la conversation, l'humain observateur n'est pas capable de déterminer qui est la machine et qui est l'être humain, ça veut dire que la machine est intelligente. Alors la question, une des questions qui va se poser dans Cogito, c'est qui a raison entre Alan Turing ou Ada Lovelace? C'est quoi la vraie différence entre l'humain et la machine? Est-ce que c'est l'imagination ou est-ce que c'est le fait de pouvoir tenir une conversation intelligente en apparence?
Voilà, c'est la prise de décision. Et effectivement, c'est tout le cœur du roman et ça donne de très belles scènes. Mais là, on ne pourra pas en parler parce que pour pas vous déflorer le sujet. Mais c'est vrai que ça interpelle beaucoup. Vous avez tout à l'heure fait allusion au fait que, par exemple, on peut télécharger, on apprend une langue dans la nuit, ce qui est le rêve absolu pour moi tout au moins, ou on peut apprendre, par exemple, la guitare. Et effectivement, il y a ensuite la pratique qui doit venir derrière. Qu'est-ce que ça donne?
Ça, c'est aussi un sujet de débat aujourd'hui. C'est quoi les connaissances? C'est quoi les compétences? Dans quelle manière c'est quelque chose d'extérieur qu'on s'approprie? Ou est-ce que c'est quelque chose d'organique? Est-ce qu'à un moment donné, ça ne devient pas une partie de soi, ça ne s'intègre pas à son être de manière tellement symbiotique qu'on ne peut plus le démêler, quoi. Et c'est la question qui est posée par la programmation neuronale, et notamment pour les arts, parce qu'on propose aux stagiaires non seulement d'ingurgiter des connaissances scolaires, mais aussi des pratiques artistiques. Et là, on va voir ce que ça donne. Alors, je ne veux pas non plus déflorer le sujet.
Oui. Non, mais c'est vrai que les pratiques artistiques, on voit déjà, lorsqu'on écoute certains musiciens virtuoses, il y a des fois où on se dit, mais il manque quelque chose. C'est d'une virtuosité extraordinaire, mais il n'y a pas d'âme.
Voilà, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas d'âme, il n'y a pas d'incarnation, parfois on dit. Et ce terme incarnation est au centre aussi. C'est-à-dire entre cette vision très intellectuelle des connaissances, créer quelque chose comme un logiciel qu'on télécharge, et le côté incarné de la pratique d'un art, c'est finalement de deux visions totalement opposées, oui.
Alors, on va peut-être parler un petit peu aussi des personnages, parce qu'en fait, c'est un roman extrêmement psychologique. Finalement, on parle beaucoup de la psychologie. Alors, la psychologie des machines, si elles en ont une, mais aussi et surtout la psychologie des personnages. Alors d'abord, l'héroïne, Roxane, qui est au cœur de tout ça, et donc dont on a dit que c'était une déclassée sociale, elle est en pleine perdition quelque part, et grâce à cela, en fait, elle va, grâce au stage, elle va découvrir, et il y a une très belle évolution du personnage, qui ça lui permet de se comprendre.
Oui, c'est vrai que Roxane, sa voix était toute tracée. Hein, donc elle pense qu'il n'y a aucun avenir pour elle. C'est vraiment une posture punk, no future. Et le fait de quitter son milieu, de quitter l'alturbation du Bois Joli et d'être projetée dans un endroit complètement différent avec des gens qu'elle n'aurait jamais côtoyés, ça va lui permettre de prendre un pas de recul et de donner beaucoup de perspectives à sa vie, aux choses et finalement de révéler tout son potentiel. Alors là, je ne veux pas non plus trop déflorer le sujet, mais elle a cette petite passion qu'elle cultive sans en parler à personne, parce qu'elle aurait peur d'être ridicule, elle écrit des haïkus. Et c'est sa manière de se connecter au réel. Elle pense qu'elle a une capacité d'attention assez limitée, qu'elle ne peut pas écrire des grands poèmes ou autres, mais le haïku, c'est la forme qui lui convient. Elle a découvert ça un peu par hasard, et depuis, elle en écrit en secret. Donc, on découvre son expérience à travers les haïkus qu'elle écrit pour elle, et puis, à un moment donné, elle va avoir ce déclic, et elle va décider de les lire en public, et ça va être aussi un des moments où elle se révèle à elle-même, et ça marque son évolution.
Oui, et elle est capable, étant dans ce milieu complètement différent, de se remettre en question, ce qui est une belle preuve de force de caractère. Elle est capable de réfléchir. Et en même temps, alors on peut dire que quelque part, votre roman, c'est aussi l'apologie d'une idée très à la mode, qui est celle de la mixité sociale, parce qu'il y a trois candidats qui sont issus des couches les plus pauvres. Roxane, qui est une déclassée sociale, Faune, qui vient de cette zone franche où il est considéré, en fait, c'est quasiment le bon sauvage qui se retrouve là. Et un troisième qui, lui, est un personnage dont les parents faisaient partie des gens les plus riches. Et puis, ses parents sont des Balkany du futur, quelque part. Et donc, ils ont été arrêtés pour un nombre de fraudes impressionnant. Et lui ne veut pas y croire, alors que tous ses amis lui ont tourné le dos, puisqu'il est perdu.
Voilà, alors, en fait, c'est vrai que ce stage programmation neuronale, ça coûte très cher. Donc, en gros, c'est facturé 1 million d'euros aux stagiaires. Donc, c'est vrai que les stagiaires qui se retrouvent aux îles Fortunées, pour la plupart, sont issus de catégories très favorisées. Et les trois boursiers, hein, c'est la première fois qu'il y a des boursiers dans ce stage. Il y a une petite idée de Noosine derrière, c'est qu'ils se disent que la programmation neuronale, ça n'a pas bonne presse auprès du public, comme on a vu avec la réaction des gens à l'aéroport. Donc ils se sont dit, on va prendre des boursiers, on va montrer qu'ils réussissent le bac, qu'ils réussissent très bien leur vie ensuite, et on va publier leur dossier scolaire. Donc ça rendra la technologie de la programmation neuronale plus sympathique aux yeux du public. C'est un peu le deal qu'ils ont fait en échange du stage gratuit. Et parmi nos trois boursiers, on a donc l'héroïne, Roxane, dont vous avez parlé. On a Faune, qu'on a évoqué par ailleurs. Et le troisième, c'est Lorenzo, qui lui, effectivement, venait de ce milieu très favorisé. Ses parents ont été arrêtés pour toute une escroquerie aux crypto-monnaies très élaborée. Et lui, il est un peu entre deux eaux. Il a ses amis d'avant qui sont de l'autre côté de la barrière et il se retrouve avec les boursiers. Et il s'accroche encore à son monde d'avant et notamment son ancienne petite amie. Il ne sait plus trop s'il est avec elle encore ou pas, Perle, qui fait aussi partie du stage et qui a plus ou moins cassé avec lui par texto quand elle a appris que ses parents étaient arrêtés. Et lui, son objectif, c'est pas uniquement d'ingurgiter le programme du bac par programmation neuronale, c'est aussi de reconquérir sa petite amie Perle. Mais c'est peut-être une bataille perdue. Ça, on va le découvrir dans le roman.
On le découvrira. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on voit aussi l'évolution justement des autres, dont les parents ont payé une somme colossale pour pouvoir les avoir là, qui sont tous plus ou moins des ratés friqués, hein, pour parler un peu vulgairement.
Bah, disons que la programmation neuronale, c'est un peu la boîte à bac du futur. Donc voilà. C'est là où le père fait un gros chèque pour envoyer son rejeton et être sûr qu'il aura le bac. Mais la plupart d'entre eux, en fait, n'en ont rien à faire. Mais ça pose la question vraiment d'un monde, effectivement, où les machines occuperaient tous les métiers, prendraient toutes les activités qui nous occupaient en tant qu'humains. Qu'est-ce qui reste ? C'est la question. Qu'est-ce qui reste pour nous humains, pour nous définir ? Aujourd'hui, le travail, depuis très longtemps, c'est la valeur centrale de notre civilisation. C'est là-dessus que nos civilisations sont construites. Ça nous permet déjà de toucher un salaire, d'avoir les moyens de vivre, mais également de nous définir socialement, notre utilité dans la société. Le jour où les robots nous remplaceront, qu'est-ce qui restera ? Comment on va pouvoir vivre ? Comment on va se sentir utile par rapport aux autres ? Ça, c'est des questions qui sont au cœur du roman et qui vous exprimez de manière différente avec Roxane qui sera dans une attitude de révolte très forte et à l'opposé, les gosses de riches, entre guillemets, qui, eux, sont dans une nonchalance, mais qui c'est également une perte de sens des deux côtés.
Oui, mais c'est vrai que ça nous parle parce que ce sont les questionnements actuels.
Et qui vont devenir de plus en plus pressants. Moi, j'ai la conviction que ça va s'accélérer. Et on en parle de plus en plus, heureusement, parce que ça va devenir le thème majeur le choix de civilisation qu'on va faire dans les années à venir. Comment on va vivre avec les machines, avec ces machines qu'on a créées à notre image et qui vont nous remplacer de plus en plus.
Alors, justement, une question. Parce que votre roman est très détaillé, très fouillé. On sent qu'il y a une recherche énorme derrière pour pouvoir, parce que vous abordez des points qui sont parfois assez complexes, même très complexes, et vous avez cette faculté de vulgarisation. En fait, on a l'impression de tout, on comprend tout, et ça c'est formidable.
C'est vrai que le sujet de l'intelligence artificielle, c'est un sujet foisonnant et complexe, passionnant aussi. Ce que je voulais avec ce roman, c'est que les lecteurs, et notamment les jeunes lecteurs, s'approprient complètement ce thème. Parce qu'une fois encore, pour moi, ça sera le défi de leur génération. Les ados d'aujourd'hui, c'est eux qui vont devoir régler le problème de l'intelligence artificielle et celui de l'écologie. Hein. C'est deux grands défis du XXIe siècle. Donc il faut qu'ils s'approprient ce sujet-là. Et du coup, le côté vulgarisation, le fait de mettre beaucoup d'illustrations pour rendre ces concepts vraiment palpables, c'était important pour moi. J'ai pas de message à faire passer. J'écris jamais de romans pour faire passer des messages ou des thèses, mais plus pour poser des questions. Ouais. Et là, je veux vraiment que le lecteur s'empare de ces questions et les ait présents à l'esprit, parce que c'est là-dessus que notre futur va se définir.
Oui, mais alors donc, vous avez fait beaucoup de recherches, vous avez rencontré des acteurs de ce qui se passe en ce moment, puisque vous vivez aux États-Unis, vous avez eu l'occasion d'aller dans la Silicon Valley, là où où tout se passe.
Alors moi, je ne suis pas allé dans la Silicon Valley, en revanche, j'ai des amis qui travaillent chez Google à New York, et je les ai effectivement interrogés, parce que Google, c'est un des grands centres où on conceptualise l'intelligence artificielle, et effectivement, eux sont très conscients, je peux vous dire, de la menace de l'intelligence artificielle, des opportunités énormes, mais également des menaces qui se profilent. Ils n'ont pas encore les réponses, ils cherchent eux aussi. Hein.
Ah oui, c'est en train de se faire, ce sont des créations. Et alors, revenons un petit peu, parce que vous avez parlé des illustrations, mais en fait, il y a des illustrations, mais il y a eu aussi ces très beaux résumés, il y a des petits diagrammes, etc., qui permettent de synthétiser vraiment toutes les explications que vous avez données. Ça, j'ai trouvé ça formidable, parce que justement, ça permet à tout le monde, on peut tous comprendre, moi qui n'ai aucune formation, qui n'y connais absolument rien, j'ai eu l'impression j'ai tout compris. Et j'ai eu l'impression d'être un génie après. Donc ça, c'est formidable.
Ouais, j'essaie d'en trouver, mais effectivement, il y a ça, par exemple, qui... celui-ci qui explique la programmation neuronale, la manière dont ça fonctionne, quelles zones du cerveau sont activées par ces minuscules robots qu'on vous injecte. Voilà, c'est trop petit pour pouvoir le lire, mais on a un certain nombre de diagrammes comme ça dans le roman. En fait, c'est un procédé que j'ai découvert avec Phobos, hein, ceux qui l'ont lu. Dans Phobos, je voulais parler de la conquête spatiale de manière très concrète, avec des technologies qui existent aujourd'hui. Et je me suis dit, bah, plus, comme disait Napoléon, un petit schéma vaut mieux qu'un long discours. On va mettre des diagrammes, des illustrations pour que le lecteur s'approprie complètement ces idées-là. Et je me suis dit, dans Cogito, on va faire la même chose. Donc j'ai travaillé avec le même graphiste, mais on a mis encore plus d'illustrations pour que ce soit vraiment concret. Oui.
Et alors, comment faites-vous pratiquement? Vous lui dites, voilà, et c'est lui qui fait des résumés, ou c'est vous lui donnez et puis...
Alors, je pousse assez loin le brief, comme on dit. Hein. Je travaille sur PowerPoint et sur Photoshop pour vraiment conceptualiser ces illustrations que je conçois au fur et à mesure de l'écriture. Donc, ça, pour moi, c'est complètement intégré au récit. Quand j'écris mon histoire, il y a un moment donné, je me dis, alors là, c'est quelque chose vraiment de complexe. Il faut vraiment que j'ai une illustration pour m'aider à faire passer le message. Je conçois mon brief et ensuite, je l'envoie au graphiste qui va réaliser l'illustration. Il y a tout un tas d'allers-retours ensuite pour aboutir au résultat final.
D'accord. Un mot aussi peut-être de la couverture qui est très belle. Je ne sais pas si vous pouvez bien la voir, mais elle est, quand on la voit de près, elle est vraiment très très belle. Alors peut-être aussi un mot de cet artiste.
Alors oui, c'est Jim Turner, qui était un artiste que j'ai découvert à New York. Il habite à Brooklyn et il est vraiment spécialisé en couverture de livres. J'aime beaucoup son travail qui est très graphique, et j'avais cette idée d'un livre circuit imprimé qui serait un peu comme une carte de circuit imprimé, parce qu'on est au cœur du sujet. Et donc on a discuté, il est arrivé avec cette idée de titre comme ça, inscrit comme sur une carte mère d'ordinateur, avec tous ces circuits imprimés qui sont en marquage à chaud. Donc ça donne un objet, un bel objet qui est très en rapport avec le thème même du roman. Et on a effectivement des pictogrammes inscrits dans les différentes lettres, qui sont comme un peu un chemin de fer de l'histoire. On a alors je ne sais pas si vous pouvez voir d'ici, on a le profil de l'héroïne Roxane et d'un robot. On a le cerveau, bien sûr, hein, la programmation neuronale. Papillon, c'est un animal qui va intervenir dans le roman. Le cocotier des îles Fortunées. Le croisement de l'os et de la plume. Et la main, peut-être comme un avertissement sur ce stage de programmation neuronale où mon héroïne s'envole. Oh. D'ailleurs, au dos, on retrouve le profil de l'héroïne avec cette phrase mystérieuse, « L'ultime frontière sera notre cerveau ».
Qui est une très belle phrase, d'ailleurs. Et alors, revenons un tout petit peu, parce que, comme vous l'avez dit, dans le roman, vous posez des questions et... vous permettez à chacun de réfléchir et quelque part de se former sa propre opinion. Donc vous restez assez neutre. Quoique, mais alors là, hors du roman, vous maintenant, quelle est votre position personnelle?
J'ai pas de position complètement arrêtée. Hein. J'ai l'impression de mieux connaître le sujet parce que, à travers toutes les recherches que j'ai faites pour écrire cette histoire, je pense que ça doit être un objet de débat. Ce qui manque aujourd'hui, c'est que c'est un sujet de spécialistes, l'intelligence artificielle, d'experts. Ça se fait dans des laboratoires un peu coupés du public. Or, ça va tous nous affecter dans l'avenir. Le moment est venu que ça devienne un sujet politique qui devrait être débattu largement, même abordé dans les écoles. Et les solutions, à mon avis, naîtront du débat démocratique. C'est ça, moi, la conviction que j'ai aujourd'hui. Et c'est un peu c'est déjà pas le message, parce que c'est pas un roman à thèse, oui. Mais c'est un peu l'idée que j'ai essayé de faire passer dans Cogito.
En même temps, on s'aperçoit quand même, quand on regarde certains des débats de société aujourd'hui, ne serait-ce que sur la procréation médicalement assistée, etc., on s'aperçoit que tout fait débat et qu'à chaque fois, c'est pas une question d'opinion informée, c'est une question de conviction.
Oui, il y a parfois une manière de réagir très émotionnelle qui est basée sur des préjugés, et c'est là que la fiction peut aider à faire passer des informations pour pour avoir des avis peut-être plus informés sur certains sujets. Mais j'ai l'impression que ce qui est en train de se passer pour l'écologie, c'est la même chose. Là, maintenant, on a vraiment l'impression que le public s'empare de l'écologie et toutes les générations, là, les marches pour le climat, les lycéens qui s'engagent très fortement sur ce sujet-là. Donc là, on a atteint ce niveau où l'écologie est vraiment devenue un sujet de débat que la population s'est complètement appropriée. Et moi, j'attends que ça arrive également pour l'intelligence artificielle et l'automatisation. Pour moi, c'est le deuxième grand sujet de notre siècle.
Oui. Mais ça me semble encore un petit peu loin. Hein.
Autant l'écologie, là, maintenant, de manière très concrète, on voit toutes ces catastrophes qui surviennent, c'est devenu quelque chose de réel. Il y a des gens qui le nient encore, mais c'est une minorité. Il me semble que l'automatisation de l'intelligence artificielle, c'est pas suffisamment concret encore dans notre monde aujourd'hui pour qu'on en conçoive toutes les implications qui pourtant vont venir très vite. On est un peu sur ce tipping point, et quand ça arrivera, j'espère que ce sera pas trop tard. Parce qu'il y a vraiment cette question, il faut qu'on s'empare du sujet avant qu'il soit trop tard.
Oui, mais la robotisation, elle est déjà là.
On a l'impression d'en être préservé un peu.
Je ne sais plus combien il y a de millions de robots dans les usines françaises, 3 millions, quelque chose comme ça. Enfin, c'est déjà là et c'est du vécu de tous les jours pour les ouvriers qui étaient en usine et qui, du jour au lendemain, se retrouvent remplacés. Et ça va très vite. Moi, je me souviens que quand j'étais gosse, les usines Renault à Boulogne-Billancourt envoyaient ces chaînes immenses d'ouvriers qui faisaient des tâches répétitives. Aujourd'hui, il n'y a plus d'ouvriers, il n'y a plus que des robots. Donc, c'est déjà là. Et effectivement, les gens donc réagissent par conviction. On a poussé à faire, si vous me pardonnez l'expression, à des ludites qu'à une réflexion organisée.
Oui, alors les ludites, je ne sais pas si ça vous parle, c'était un mouvement au XVIIIe siècle, au tout début de la mécanisation qui est apparu en Angleterre, quand les métiers à tisser sont apparus et ont mis plein d'anciens tisserands au chômage à l'époque. Ils ont décidé de casser les métiers à tisser, et c'est le premier mouvement anti-technologie en fait, qui est né au XVIIIe siècle. Et je pense qu'il va y avoir l'équivalent très bientôt, et c'est ce que j'ai essayé d'imaginer avec les affranchis dans mon roman, de gens qui refusent complètement la technologie au point de vouloir la détruire, avoir une posture vraiment très extrême. Alors peut-être que la voie du milieu est la meilleure, mais c'est aussi la plus difficile à suivre.
Oui, et en même temps, effectivement, comme vous le soulevez dans votre roman, et vous avez abordé aussi un petit peu au début de notre entretien, c'est que destruction dans la destruction créatrice, hein, c'est ça. Mais il faut avoir des capacités technologiques et des connaissances pour pouvoir, par exemple, réparer les robots qui ne s'auto-réparent pas. Il faut avoir des connaissances suffisantes. Si on ne les a pas, on ne peut rien faire.
Alors c'est vrai que la formation dans ce monde qui nous prépare, qui se prépare, ça sera un des grands enjeux, au sens où les tâches seront de plus en plus complexes, d'où la programmation neuronale. C'est aussi un peu comme ça que c'est justifié, en disant demain on aura besoin de se former à des nouveaux métiers en permanence. Le seul moyen d'y arriver, c'est en nous injectant les connaissances dans le cerveau. C'est comme ça que Damien Prince légitime cette nouvelle technologie. Mais c'est un des enjeux, une des questions qui se pose effectivement.
Plus le fait que du coup, en une semaine, on peut ingurgiter ce qu'on aurait mis 10 ans à apprendre avant. Donc, comme le temps, c'est de l'argent, on a des gens qui seraient instantanément formés, quoi. Donc ça, c'est aussi un gros avantage. Mais c'est vrai qu'à travers ça, on retrouve, et avec le bac, etc., on trouve ce qui se passe déjà. Moi, j'ai pensé, par exemple, à ce qu'il y avait, lorsqu'on lit les descriptions de l'éducation au Japon, où on voit que quasiment dès la maternelle, ils commencent déjà à être formatés et pour aller dans une certaine voie, pour avoir des débouchés. C'est aussi les discussions qu'il y a dans l'université française aujourd'hui. Ah, il faut faire des formations non plus pour apprendre quelque chose, mais pour pouvoir trouver des débouchés.
Oui, alors moi j'ai vécu à Singapour avant d'habiter à New York, où c'est le même système qu'au Japon, même plus poussé encore, hein, où les enfants sont entraînés comme des champions dès la maternelle pour aller dans des voies tracées d'avance, et c'est uniquement une logique de débouché. Mais une fois encore, c'est un système qui va continuer, qui va perturber et qui va se renforcer, je pense, avec la contraction du marché du travail, et à un moment donné où ça va complètement se renverser, parce qu'il n'y aura plus du tout assez d'emplois pour absorber même ces étudiants brillants, et la question va se poser de manière extrêmement violente, mais à quoi sert l'éducation finalement, si ça ne sert plus à former des travailleurs? Il va falloir repenser l'éducation. Est-ce que l'éducation ne va pas servir finalement à former des êtres humains complets plutôt que des travailleurs? Enfin, il y aura une vraie tension sur la mission de l'éducation.
Écoutez, merci beaucoup Victor. Le temps a passé comme toujours très très vite avec vous. Et donc je vous invite à lire Cogito parce que effectivement, ce sont tous les questionnements actuels que Victor Dixen développe dedans et sur lesquels nous devrions tous réfléchir. Merci beaucoup Victor.
Merci beaucoup.
Oui, comme on a 5 minutes, est-ce que éventuellement quelqu'un aurait une question pour Victor Dixen?
Alors c'est un one shot. Pour les lecteurs du Faubourg, qui sont partis sur les grandes épopées, là, il y aura une vraie fin, un vrai début, un vrai milieu, une vraie fin. Et en termes d'écriture, c'est vrai que c'est différent, mais c'est aussi satisfaisant de terminer un roman. Donc c'est une histoire en un seul tome. Oui.
D'autres questions? Non, alors ben. On va vous laisser découvrir maintenant Cogito. Merci.